Chapitre 73. Mandevire porte sa cigarette à ses lèvres et entend le bout incandescent crépiter tandis qu'il aspire la fumée dans ses poumons. Le cœur battant, il se tient sous le toit qui surplombe le bâtiment des laboratoires et écoute les pas rapides de Juna dans la cage d'escalier. La pluie fine forme des petits nuages brumeux autour des quelques lampadaires qui bordent les allées. Des gouttes tombent à un rythme régulier du toit sur un vieux sac en plastique posé au sol. « Qu'est-ce qui se passe ?» demande Mandevire. « On est en route pour chez toi. »« Qui ça ?»« Toutes les unités disponibles. Je te préviens, la conversation risque d'être interrompue quand j'arriverai dans mon garage. » Mandevire a instinctivement menti à Juna, car il le soupçonne d'être le complice de Saga. Puis, il n'a pas pu faire machine arrière. Il ne rentre jamais chez lui lorsque Miranda suit son cours, parce qu'il se déteste quand il est seul dans la grande maison et qu'il se met à fouiller dans l'ordinateur, les sacs et les vêtements de sa femme à la recherche de signes indiquant qu'elle le trompe. Il craint que cette jalousie irrationnelle ne finisse par détruire son mariage. Mais la situation ne fait qu'empirer. « Mais qu'est-ce qu'il y a d'autre dans le paquet ? » s'enquiert-il en avalant sa salive avec peine. « La page déchirée d'un livre sur l'histoire des peuples nordiques, d'Olaus Magnus. On y parle de la mythologie et il y a une photo d'Odin et de Frigg. Le texte ne mentionne aucun lieu ?» demande Mandevire, de plus en plus mal à l'aise. « Non, il doit bien y avoir... Attends, je crois que je commence à comprendre sa façon de penser. » l'interrompt Juna. « Je pense que Mara Makarov a prévu de t'assassiner devant la maison de la science. »« Qu'est-ce qui te fait dire ça ?» articule Mandevire d'une voix faible. « Ça correspond. La planète Vénus est l'étoile du matin. Mais dans la mythologie nordique, c'est l'étoile de Frigg. Il y a une maquette de la planète Vénus là-bas, dans la représentation du système solaire suédois. » Mandevire balaie du regard l'asphalte mouillé. Lève les yeux et découvre la sphère grise en béton posée sur un piédestal au milieu du petit parc. La lourde porte d'acier se referme avec un bruit sourd qui résonne derrière Juna lorsqu'il descend à toute allure l'escalier menant au garage. « Miranda, suis un cours d'été à la maison de la science !» allait Mandevire. « D'accord, on va s'arranger pour... Allô, Juna, je me trouve... Je te rappelle... » dit rapidement Juna lorsqu'il entend qu'il est en train de perdre la connexion. Il court jusqu'à sa voiture, s'installe au volant, fait crisser les pneus en montant la rampe, s'arrête quelques secondes devant les portes qui s'écartent lentement, puis arrive dans la rue, ignore les feux de signalisation, tourne à droite sur Zweewegen et accélère. Il rappelle Mandevire. Mais après 8 sonneries, il tombe sur sa boîte vocale. Juna se rassure en se disant qu'il est en sécurité chez lui, que les premières voitures seront là d'une minute à l'autre. Il accélère. La traque pourrait bien s'achever dans très peu de temps. Juna est presque certain d'avoir résolu l'énigme. L'une des pièces du puzzle est le Globen, ou plutôt le Avicii Arena, la salle omnisport qui représente le Soleil dans le système solaire suédois. La plus grande maquette au monde de notre système solaire. La maquette de la Terre se trouve au musée d'histoire naturelle, celle de Jupiter à l'aéroport d'Arlanda et celle de Sedna dans un parc de Luleå, à 840 km de là. La deuxième pièce du puzzle est la gravure sur bois de la déesse nordique Frigg. La planète Vénus était considérée comme son étoile. La maquette de Vénus est située à l'extérieur de la maison de la science. Juna tourne à droite, emprunte la voie de bus et accélère encore. Des petites gouttes de pluie s'accrochent au pare-brise comme autant de pointes acérées. Tout le monde est en route pour la maison de Mandevire. Mais lui se rend à l'endroit où Mara a prévu de le tuer. Mandevire n'a pas tout à fait réussi à suivre le raisonnement de Juna. Mais il a saisi l'essentiel. Mara Makarov a choisi ce lieu précis pour le tuer. Il balance sa cigarette et traverse en courant la pelouse jusqu'à la maison de la science afin de récupérer Miranda et la ramener à la maison. La porte est verrouillée. Il frappe sur la vitre et regarde à l'intérieur, puis il cogne plus fort en se déplaçant le long des grandes baies vitrées. Il se retourne et subit un choc lorsqu'il aperçoit un pick-up rouillé avec un treuil électrique garé derrière l'un des vieux bâtiments de l'hôpital sur la droite. « Mon Dieu !» murmure-t-il avant de partir à pas rapide dans l'autre direction. Manvir contourne la maison de la science et après le pignon, il se met à courir dans l'herbe et traverse la route étroite qui mène à l'Institut de physique théorique. Il s'arrête, haletant, et s'adosse contre la façade en crépi. Ses jambes vacillent et sa respiration est beaucoup trop rapide. Un peu plus loin, devant une école, quelques cartons de déménagement prennent la pluie. Il essaie d'avoir l'esprit clair. Il faut qu'il se cache, ou qu'il s'éloigne au plus vite de ce quartier. Les rues détrempées brillent entre les grands chênes. Après le deuxième bâtiment de l'hôpital, il voit un bac en plastique vert contenant du sable. L'eau ruisselle à travers la grille d'un caniveau. Manvir dégaine son arme de service et jette un regard vers l'angle de la rue où passe la route principale qui mène du rond-point à la rotonde d'Albanova. Tout est immobile, enveloppé dans une bruine épaisse. Il longe silencieusement le pignon et perçoit soudain un mouvement sur sa droite. Quelqu'un marche dans l'obscurité à l'arrière d'un des bâtiments ocre. C'est une fille aux vêtements incolores et à la peau grisâtre. Elle se dirige rapidement vers lui. Manvir panique. Il tourne son arme dans sa direction, mais sa main tremble. Il ne l'atteindra pas à cette distance. Il passe l'angle du bâtiment, traverse un chemin étroit, glisse sur l'herbe mouillée, se cogne le bras contre la façade et entend son alliance teintée sur le bitume. Puis, il contourne le bâtiment de physique théorique et s'arrête. Son cœur cogne contre sa poitrine et sa respiration lui déchire les poumons. Du sang s'écoule des jointures éraflées de sa main gauche. Ses jambes chancellent lorsqu'il veut repartir vers l'angle de la rue. Il doit absolument sursaisir. Il pointe son arme entre les troncs d'arbres, mais ne voit plus la jeune fille. « Mara, tu m'entends ? La police arrive » crie-t-il. « Abandonne, c'est fini ! Tu n'y arriveras pas !» Il se met à courir le long de la rangée de fenêtres sombres. Albanova est sur sa droite, avec son observatoire et sa coupole. En le voyant, deux étudiants qui marchaient sur la pelouse se précipitent à l'intérieur du bâtiment. La porte vitrée claque derrière eux. Manvir court aussi vite que ses jambes le lui permettent. Il sent la présence de Mara derrière lui. Il saute par-dessus un scooter électrique couché par terre et continue, haletant, jusqu'à un rond-point au milieu duquel trône une sculpture en bronze. Il s'arrête et regarde dans toutes les directions. Il voit défiler le réseau des rues désertes qui courent entre les longs bâtiments. Il fait quelques pas, hésite, ne sait plus où aller. Il regarde la pente raide qui mène vers un chantier et reprend sa course vers le prochain bâtiment. Juna roule à toute vitesse sur l'esplanade, mais il doit freiner avant un carrefour bloqué par deux camions. Tous les véhicules sont à l'arrêt alors que le feu est vert. Des klaxons retentissent. Les cyclistes et les piétons essaient de se faufiler entre les voitures. Il reçoit un appel du chef d'intervention depuis Riedarwegen. « La maison est vide, » dit-il. « Impossible. Je lui ai dit de se cacher dans la salle de bain à l'étage. Il n'y a personne. Ce n'est pas normal. Regardez dans le garage. Il n'est pas là, sa voiture non plus. » Les camions redémarrent au moment où le feu passe au rouge et les voitures engagées sur le carrefour sont bloquées dans les deux sens. Juna dévie rapidement sur la voie opposée en faisant hurler son klaxon. « Fais demi-tour et accélère !»